Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 6 novembre 1997 à Saint-Jeudard.
Puisqu'il n'y a pas de questions, ça prouve que vous avez tout compris sur le jugement d'existence. On peut donc passer au second.
Simplement le témoin.
c'est ça mon intelligence. Constater que la table existe. Constater que le mot être, ceci est, ceci n'est pas, est quelque chose de tout à fait premier pour la vie de mon intelligence. Et est-ce que mon intelligence s'arrête là? Ou est-ce que mon intelligence, à partir de cette constatation, ceci est, ceci n'est pas, va aller plus loin et interroger? Oui, le grand problème de l'interrogation. Alors, c'est intéressant que pendant très longtemps, l'interrogation est restée un petit peu à l'ombre. La scolastique, thomiste, on ne pousse pas beaucoup d'interrogations. On voit une succession de définitions. La définition, très bien, mais c'est de l'ordre logique. Quand je dis l'homme, Pierre est un homme. Homme, c'est une réalité vivante qui implique un corps et une âme. Le corps est commun avec les animaux et l'âme est ce qui donne le caractère propre à l'homme, différent spécifique. Je définis par genre et différent spécifique. C'est logique. Une culture très je considère qu'elle existait. Autrement, je n'aurais pas écrasé. Donc la néantisation qui se manifeste d'abord par ce fait d'écraser. Je néantise l'araignée. Non, je la néantise pas, je la tue. C'est pas la même chose. Je l'empêche de continuer de me mordre. Parce que je ne lui avais pas déclaré la guerre. C'est elle qui a commencé. Elle a commencé. Et je réponds. Un peu brutalement, évidemment. Parce que je la domine et que ça ne m'émeut pas beaucoup de l'écraser. Je la rejette. Mais je ne peux rien construire après, à partir de la négation. C'est un être de raison qui n'existe que dans mon intelligence et mon intelligence humaine. Dieu, il n'y a pas en lui d'être de raison. Si Dieu existe, dit le philosophe, il ne peut pas. C'est propre à l'homme. C'est du reste pour ça que je suis si familier de la négation. Et que la négation ne me fait pas peur parce que je domine quand je nie. Quand j'ai écrasé l'araignée, elle ne me fait plus peur. Et si quelqu'un constate que j'étais mordu par l'araignée, la nuit, il dira, tu es sûr que tu l'as bien écrasé et t'as pas deux. Fais attention, pas recommencer. L'araignée ou la guêpe, c'est encore plus dangereux. Ça dépend. C'est du plus et du moins. Plus facile d'écraser une araignée qu'une guêpe. C'est sûr. Quand je pose la question, quand je découvre ceci, et mon intelligence immédiatement pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que ce qui est ? J'écarte la solution logique qui ne résout rien. La logique situe logiquement, c'est-à-dire formellement, les choses. L'être et le non-être, la famille de l'être et la famille du non-être. On va voir ça. Mais la logique ne me dit pas ce qu'est l'être, si ce n'est un attribut très particulier d'une universalité qui dépasse toutes les autres universalités, qui est l'universalité très spéciale qu'on va dénommer universalité analogique. C'est une attribution analogique. Alors, je ne vois pas maintenant ce qu'est l'analogie. Nous verrons plus tard. Mais je montre que l'analogie apparaît en premier lieu dans l'attribution. C'est intéressant, ça, de voir qu'elle apparaît. La logique a ce privilège de manifester. Et la manifestation, c'est pas l'être. Elle manifeste. Ceci est, Pierre est, cette table existe. N'oubliez jamais ça. Cette fameuse parole d'Aristote, que ce qui est dit de multiples façons. To on legetai polakos. Ce qui est dit de multiples façons. Ça, tout le monde peut le reconnaître tout de suite. Mais c'est important. Ça a joué un très grand rôle, ça. C'est ce qu'on va appeler analogique parce que c'est divers et c'est un. l'union, de l'unité et de la diversité. L'analogie implique toujours une diversité, et dans la diversité, une unité. Être attribué à homme, être attribué à la table, être attribué à l'araignée, ce n'est pas le même être. C'est divers. Et pourtant, c'est toujours l'être. Vous voyez comment est né le problème de l'analogie. C'est extrêmement simple, puisque c'est tout de suite par le légétail, le langage, l'attribution, que ça se manifeste. Résolver le problème du ce qui est dit de multiples façons pour la cause. Essayez de le résoudre en mettant entre parenthèses l'analogie. Vous n'arriverez pas. Analogie veut dire proportion. Analogios, c'est un mot qui a existé d'abord en mathématiques. Et c'est vrai, il y a une proportion, puisqu'il y a une diversité et quelque chose en commun. Donc, il y a ce problème-là. Si j'oublie de le traiter avec vous, vous me le rappellerez. Parce que c'est important, mais j'aime mieux le voir en philosophie, en métaphysique, plutôt que de rester uniquement en logique. L'interrogation, c'est l'intelligence. Chez les gosses, des petits gosses intelligents. Je vous ai donné l'exemple parce que c'était tellement délicieux d'entendre ça. En gare du Creusot, première fois que on attendait un TGV, c'était l'ouverture d'un monde nouveau, l'ouverture de gare nouvelle. Et l'ouverture pour un enfant de voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Alors on voyait arriver ce bolide. Heureusement qu'il était sur rail. Tant que les bolides sont sur rail, ça va. Et le gosse qui regarde et qui dit à sa maman, qu'est-ce que c'est ? Donc il avait vu quelque chose, autrement il n'aurait pas interrogé. Avant il ne voyait rien. Sans rien dessus. Il voit quelque chose d'anormal. Aucune référence à ça. C'est nouveau. Quand l'intelligence est en face de quelque chose de nouveau, donc qu'elle n'appréhende pas, qu'elle ne saisit pas, et pourtant elle voit quelque chose qu'elle connaît. C'était d'habitude le train. Habituel, tout d'un coup, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est, maman ? Et la mère répond par la logique. TGV. C'est une merveilleuse explication, n'est-ce pas ? La mère avait vu toutes les réclames sur le TGV. TGV. Et alors le gosse continue. Qu'est-ce que c'est que TGV ? Et la mère ne sait plus. Là, elle quitte la logique pour dire tu verras l'expérience, on va monter dedans. Donc il monte dans quelque chose qu'il ne connaît pas, mais il a confiance en sa mère. Autrement il aurait eu peur. Mais c'est merveilleux parce qu'on voit là la naissance de l'interrogation. Alors poussez un peu. coupée de la métaphysique. Alors elle n'interroge plus. L'intelligence ne s'éveille plus dans notre monde. Elle répète. Et si jamais un jour on ne répète plus, on se dit mais tais-toi, c'est pas la peine. Tout le monde sait ce que c'est que l'être. Et personne ne le sait. C'est très curieux. Hein. Comment naît des oublis de choses capitales? Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? À partir d'un certain âge, on n'interroge plus. Parce qu'on se fait taper sur les doigts si on interroge. Tu as ce monde de toujours interroger. Écoute, et puis répète, et puis c'est tout. On ramène le monde à ça. Et donc, on fait des hommes qui vont sur des rails, qui répètent, et qui ne s'interrogent plus. Mais là, je crois que quelqu'un comme Merleau-Ponty a fait une œuvre saine en rappelant l'importance de l'interrogation. L'importance de l'interrogation, parce que l'interrogation, cet éveil de l'intelligence qui veut aller plus loin, puisqu'elle ne sait pas, et elle avoue qu'elle ne sait pas. C'est très beau d'avouer qu'on ne sait pas. Parce que si on avoue qu'on ne sait pas, ça veut dire qu'on veut progresser. Ça veut dire qu'on veut aller plus loin. On sait quelque chose. On a constaté le jugement d'existence. C'est vrai, c'est fondamental. Mon intelligence en contact avec le réel, ce qui est. C'est mon intelligence qui refuse ou qui constate qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, est-ce que j'ai l'expérience du rien? Non. Non. Parce que si Pierre n'est pas dans le café, il y a Jacques qui y est. Il y a son ami qui y est. Ou bien il y a tout simplement d'autres personnes. J'ai jamais eu l'expérience du néant. C'est trop effrayant d'avoir l'expérience du néant. Vous ne l'avez pas eu non plus. Mais vous voudriez l'avoir. Et notre monde d'aujourd'hui est un monde qui cherche l'expérience du néant. Avec Sartre. Si je suis disciple de Sartre, je cherche le néant. Et c'est pour ça que les premiers disciples de Sartre se sont suicidés. Ils voulaient avoir l'expérience du non-être. Or, pour eux, l'expérience du non-être, c'était disparaître. C'est bien dommage qu'ils n'ont pas ressuscité. Pour dire à M. Sartre, je vous ai suivi jusqu'à la mort, et je vois que vous avez tort, parce que ce n'est pas le néant que j'ai rencontré autre jour. N'a pas l'expérience du néant. Donc le néant n'éveille pas l'intelligence. Et c'est le fruit de ma raison lié à l'intelligence. C'est le fruit d'une frustration. Tu cherches Pierre, il n'est pas là, il est absent. C'est l'absence. Ah, l'absence, je la constate. Et je la constate tellement, c'est qu'elle me blesse. J'ai donné rendez-vous à Pierre au café. C'est Sartre. J'ai donné rendez-vous à Pierre au café, il n'est pas là. C'est terrible ça, d'attendre. J'attends, il n'est pas là, il vient pas. Donc, l'absence grand-chose, le temps. Puisque le temps engendre un autre temps, et ainsi de suite. Il sera peut-être là demain. Je me suis peut-être trompé. C'est demain qu'il sera là. Alors, ça me rassure. Mais si demain je viens, il est absent. Où est-ce qu'il est? Il m'a pas dit où il était. Ah, j'ai l'expérience d'une négation à travers le temps qui dépasse le temps et qui très vite devient un absolu. La négation absolue. En grec, aplos. La négation absolue, c'est à l'égard de l'être, puisque l'être est le point de départ de toute ma connaissance. Et donc, la négation de l'être va être la négation de toute espèce au commencement. Et pourtant, j'existe. Alors, à ce moment-là, je suis obligé de faire la distinction entre la négation que je porte en moi, qui est la frustration. Profondément, c'est l'angoisse. Ça passe, oui, de la constatation au côté affectif. Et à partir du néant, je comprends, à partir de l'angoisse, on se demande si quelque chose existe. S'il n'y a plus que le néant. L'interrogation née d'une intelligence conquérante, d'une intelligence qui veut connaître la vérité, qui veut aller jusqu'au bout. Alors, à ce moment-là, elle ne se satisfait pas de la négation. Momentanément, peut-être, mais pas plus. La négation dans l'absolu ne me conduit à rien. La négation est inféconde. Elle me laisse dans la frustration. Elle me laisse seule. Tandis qu'au contraire, l'affirmation me conduit à interroger. Et je vais coopérer, alors c'est ça qui est très curieux, dans l'interrogation, je coopère avec ce qui est. Dis-moi ce que tu es. Savoir ce que tu es. Et comme la réponse ne se donne pas tout de suite, j'interroge de diverses manières. Aristote a eu le mérite d'ordonner les interrogations. Et ça, c'est un progrès fantastique de l'intelligence. Et c'est le premier qui a fait ça. Parce que Platon, pour lui, au fond, il n'y a pas d'interrogation. Il y a des oublis. Parce que j'ai tout en moi. Mon intelligence a tout en moi. Toutes les formes, a priori. Toutes les formes en soi, je les ai en moi. Mais je les ai oubliés. Et j'ai toi, moi. Enfin, je suis Dieu par ma naissance. Je suis homme à cause du temps. Et le temps m'a fait oublier ce que j'étais, ce que les autres étaient. J'ai oublié. Et donc, on n'enseigne pas. Mais on essaie deux types d'enseignement. Il y a l'enseignement dans la découverte personnelle à l'égard de cette coopération de mon intelligence et de la réalité qui existe. J'interroge cette réalité. Ce qui est, qu'est-ce que tu es ? Le ti esti, qu'est-ce que tu es ? Qui va se moduler de diverses manières. Et puis, il peut y avoir, à la place de la réalité, quelqu'un qui a déjà interrogé et qui dit, ah, tu interroges, voilà comment la réalité va répondre. Tu peux recommencer l'expérience, tu verras. C'est le maître. Le maître, c'est celui qui est le substitut de la réalité, qui ne répond pas tout de suite, qui a de la peine à répondre. Alors il est là pour dire, j'ai déjà fait ce parcours. Puisque j'ai déjà fait ce parcours, voilà, c'est ça. C'est le rôle du maître. Le maître n'est pas du tout celui qui sait tout, mais c'est celui qui a déjà fait un parcours devant ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou bien devant ceux qui l'ont commencé et qui ont trouvé que c'était un peu trop dur, ou bien devant ceux qui l'ont fait. Et ils étaient tellement fatigués d'arriver au terme du parcours, ils se sont arrêtés. C'est très curieux. Quand on vit l'histoire de la philosophie, le grand intérêt, c'est de saisir à quel moment s'est arrêtée telle pensée philosophique. C'est ça que devrait faire l'historien. De vous montrer les arrêts. À quel moment ? Où as-tu terminé ton parcours ? Où as-tu cessé d'interroger ? Parce que quand vous avez découvert, vous n'interrogez plus. Mais si vous êtes très intelligent, vous voyez qu'il y a diverses façons d'interroger. Et chaque fois qu'on interroge, on a une réponse diverse. Et ça, je touche là un génie qui me montre la diversité des interrogations. C'est peut-être ce qu'il y a de plus génial dans Aristote. La manière différente de m'approcher de la réalité, sans que cette réalité disparaisse. La manière différente dont j'interroge mon ami, l'homme. Parce que je peux l'interroger mal, et à ce moment-là, il s'effarouche. Jamais été aussi bête qu'en face d'un professeur qui vous interroge. On n'a jamais fait aussi profondément l'expérience de l'inhibition. Il y a des animaux qui montrent admirablement ce que les avions, le limace à deux cornes, les cornes rentrent, puis disparaissent. L'inhibition extraordinaire, ontologique. Extraordinaire. Eh bien, quand vous interrogez, vous êtes dans un état de fragilité. C'est pour ça que les enfants interrogent librement et disent tout. Mais quand plusieurs fois sa mère a répondu, mais tais-toi, tais-toi, c'est pas la peine, prends ta soupe, elle sera mal, tu verras. Alors ça, chat échaudé, il n'y interrogera plus. Ou bien quand il a eu un maître à l'école, il dit, oh, quelle interrogation, mais stupide. Ça développe bien la stupidité de celui qui l'a posé. Alors on ne pose plus. Toute interrogation a quelque chose de stupide, puisqu'on ne connaît pas. Et qu'on étale, qu'on ne connaît pas, alors qu'on devrait connaître. réceptivité. Je veux recevoir, je veux connaître. Et puis l'agressivité, dis-moi. Dans toute interrogation, il y a quelque chose d'agressif. Plus ou moins. En métaphysique, l'interrogation est une agressivité très particulière, parce que c'est tellement difficile de bien interroger. Vous voyez, l'acuité de l'intelligence se manifeste dans l'interrogation. Et dans l'interrogation, je découvre tout de suite la soif de connaître, et de connaître parfaitement, d'aller jusqu'au bout, d'atteindre la vérité. La vérité, c'est le terminus de l'interrogation. Enfin, je sais, et je sais parfaitement. L'interrogation, au fond, explicite votre fragilité. Celui qui ne connaît pas, celui qui connaît est capable de répondre. Celui qui ne connaît pas est dans un état de fragilité. Il est prêt à recevoir. Mais si il est auprès d'une réalité profonde, il peut répondre. S'il est auprès d'un maître intelligent, il peut répondre. Ça va. Mais s'il est auprès d'un maître qui n'a qu'une seule soif, c'est de s'exalter, il ne cherche plus la vérité. Il domine. Alors à ce moment-là, je subis la tyrannie du maître, de celui qui sait. Et ça me blesse, puisque en interrogeant, je me livre à lui. Dès que vous interrogez quelqu'un, vous vous livrez à lui. Et c'est dans ce sens-là que vous êtes dans un état d'infirmité, de fragilité. Et étudiez ce qu'est l'interrogation. C'est très important. Parce que celui qui n'interroge plus, c'est Merleau-Ponty qui dit ça, n'avance plus. Il se contente de ce qu'il sait. Oui, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas d'interroger. Pendant le cours, si on était moins nombreux, comme on est trop nombreux, on ne peut pas. Là, vous marquez sur un papier. Toute interrogation que vous faites, vraie, vous permet d'avancer. Alors quand vous ne savez rien, quand vous ne savez rien, vous ne pouvez pas interroger. Mais quand vous commencez à connaître, ou parce que vous avez déjà reçu un enseignement philosophique qui est tout à fait différent de celui que vous recevez ici, alors constamment vous opposez, c'est une manière d'interroger. Et c'est bon de le noter pour savoir où est la vérité, où est le cul-de-sac. Parce qu'on peut interroger et il n'y a pas de réponse. Et au contraire, vous pouvez interroger et aller plus loin. Vous voyez, il faut, pour avancer, être attentif à toutes les interrogations. Si à chaque fois que votre intelligence se heurte à quelque chose, il y avait un petit point d'interrogation au-dessus de votre tête, visible et lumineux. Ah, voilà, il se pose une question. Si tout d'un coup celui qui enseigne ferait toutes les interrogations de toutes les têtes, j'ai fait une boulette, il ne comprend pas du tout. Il ne comprend rien du tout. J'ai dû me tromper. Je le vois, puisque rien n'entre, rien ne pénètre. Mais comme il n'y a pas cela, on ne peut pas. Le passage de l'intériorité, de l'intelligence et de la parole, c'est refuser délibérément d'avancer. Et au bout d'un certain temps, ça s'accumule tellement. Écoutez, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je cherche plus d'avancer. Et c'est de votre faute. Vous avez refusé d'écrire vos interrogations. Quand on prend des notes à un cours, on doit toujours avoir la partie de gauche ou la partie de droite, peu importe, où on se pose des interrogations. Parce que c'est par là que vous avancez. Vous découvrez ce que vous savez et vous découvrez ce que vous ne savez pas. Or, c'est par là que votre intelligence désire aller plus loin. Alors, quelle sont la diversité de ces interrogations ? Aristote a distingué l'intelligence dite théorétique, c'est-à-dire contemplative, qui cherche la vérité pour la vérité, et l'intelligence pratique. Et dans l'intelligence pratique, nous pourrions ajouter l'intelligence affective et l'intelligence artistique. Vous voyez toutes les modalités de l'intelligence. Et c'est très intéressant de regarder toutes ces modalités parce que nous découvrons combien l'intelligence est souple. Il y a diverses manières d'être intelligent. Il y a une manière philosophique. Il y a une manière scientifique. Il y a une manière affective. Il y a une manière artistique. Et dans l'art, toute la diversité des arts. Et chaque fois, mon intelligence en état incoatif, n'étant pas parfaite, interroge. Essayons de comprendre cette diversité d'interrogations.